Nous allons reprendre donc le même verset que nous avions utilisé la dernière fois. Hébreux 10, verset 25. J'ai fait le choix de faire le message en deux fois pour une raison toute simple, pour voir ma capacité en tant qu'élève prédicateur. Si je peux exploiter en deux fois un court verset. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans la première partie, nous avons évoqué la nécessité pour le chrétien de faire partie d'une assemblée, d'une communauté, pour le chrétien d'être membre d'une église. Nous avions dit que ce n'était pas facultatif et il faut avoir une certaine discipline quand on est membre d'une église. Un chrétien qui est seul, un chrétien qui ne fait pas partie d'un corps, est plus exposé aux attaques de l'ennemi. Nous avons aussi dit la dernière fois que l'Église devrait tout mettre en œuvre pour le bien-être de ses membres et que une Église doit tout faire pour que personne n'abandonne. Cependant, je n'avais pas dit, c'est important aussi, il peut arriver qu'une église se sépare d'un de ses membres si un certain nombre de choses, s'il ne veut pas écouter, disons-le comme ça. Nous allons donc continuer cette prédication et aujourd'hui nous allons exploiter la deuxième partie. Mais exhortons-nous, cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Nous allons intituler cette deuxième partie, L'Église nous prépare pour le jour. Nous allons, n'est-ce pas, voir comment l'Église nous prépare pour ce jour et quel est ce jour? Qu'est-ce que nous appelons ici le jour? Je me suis amusé à appeler ce jour, à écrire pour ce jour D-Day en anglais. D-Day. D-Day. Voilà. D-Day. Quand le chrétien est membre d'une communauté, il a des repères. L'exhortation n'est pas faite sur des bases morales. Quoique la morale permet de savoir vivre dans la société où nous sommes. Et il faut dire que la morale n'est pas contraire à l'évangile, au contraire. L'exhortation dont l'apôtre Paul nous parle ici, exhortez-vous les uns les autres, exhortons-nous continuellement, exhortons-nous tous les jours, exhortons-nous chaque fois que nous avons l'occasion. L'exhortation, donc, tient ses fondements dans la Bible. À quoi devrons-nous nous exhorter? La Bible nous donne quelques indications. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Philippiens, le chapitre 4, le verset 2, la Bible nous dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Évodie et Cindy sont deux femmes dans l'église de Philippe. Et ces deux femmes sont des femmes, disons, influentes. C'est des femmes qui sont dans l'église depuis un certain moment. Seulement, ces deux femmes ne s'entendaient pas. Et comme elles sont là depuis longtemps, elles ont des partisans ou des partisanes. L'apôtre Paul, au courant de ce conflit entre ces deux femmes, les exhorte à faire quoi? À être de même sentiment dans le Seigneur. Il arrive dans nos églises aujourd'hui d'avoir des partisans d'un tel, d'une femme ou d'une autre. Généralement, c'est des personnes qui sont influentes, ou soit elles prient beaucoup, ou soit elles prient, on lui fait confiance dans la prière, ou soit c'est une personne qui donne beaucoup d'argent, ou soit c'est une personne qui tient un groupe quelconque dans l'église. Une personne, en tout cas, qui a de l'influence. Nous rendrons grâce à Dieu de ce que ces genres de choses ne sont pas parmi nous. Peut-être parce que nous allons dire on est encore une petite église. Même dans les petites églises, dans les petites communautés, il peut y avoir ces genres de problèmes. C'est le lieu pour nous tous de nous rendre compte, de nous exhorter si éventuellement il y a ces genres de trucs qui pointaient le nez. Ce verset, ce chapitre 4 de Philippiens, quand on va plus loin, on voit que ça se termine vraiment bien. On nous dit, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Nous allons donc prendre une deuxième exhortation selon la Bible qu'on trouve dans Tite. Tite 2, le verset 6. Tite 2, verset 6. Ce passage nous dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Ici, les jeunes gens, dans cette église du moins, étaient des jeunes gens qui avaient autour de 12 ans. On les appelle à la modération, à aucune exagération, en quoi que ce soit. 12 ans, c'est l'âge charnière entre l'enfance et l'âge adulte. C'est le moment où les jeunes gens ont un zèle débordant. Ils veulent tout faire. Ils veulent s'engager à tout. Ils écoutent, ils prennent position, et c'est comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Exhortons les jeunes gens à la modération. Les jeunes gens, dans cette société-là, on parle de 12 ans, mais dans notre société, dans d'autres sociétés, officiellement, ça peut être 18 ans, ça peut être 21 ans ailleurs, ça peut être 15 ans. L'essentiel, c'est de comprendre que c'est le moment où quelqu'un, qu'il ait 60 ans ou 12 ans, s'engage sur une voie. Dans l'église, on peut avoir des cinquantenaires qui viennent de se convertir. On peut avoir des gens de 25 ans qui viennent de se convertir. Ils sont ce passage, cette exhortation les concerne. Il faut leur apprendre, il faut leur dire, il faut les exhorter. Et encore là, je rends grâce à Dieu pour notre Église. Je rends grâce à Dieu pour notre Église, pas parce que je suis membre de cette Église, mais parce que c'est ça. Nous avons des structures dans cette Église qui prend ceux qui viennent de se convertir, où on apprend les fondements, le parcours Alpha par exemple, où on évolue vraiment doucement et consciemment, on ne laisse pas embrasser tout à la fois, au risque de se casser le nez. Nous allons lire rapidement le verset 20 de Acte, le verset 2 de Acte 20, où l'apôtre Paul, quand il faisait ses tournées missionnaires, il faisait les églises les unes après les autres. Pourquoi? Pour exhorter. Pour exhorter encore les disciples. Nous allons parler à présent d'une exhortation toute particulière. Nous la trouvons dans 1 Timothée, chapitre 5, le premier verset. Ne prends pas durement l'homme âgé, mais exhorte-le comme le père, comme un père, les jeunes gens comme des frères. Une exhortation, très souvent, ça peut être suite à une erreur, ça peut être un jugement. La Bible nous dit, pour des personnes âgées, prenons des gants, de velours. Je me suis même dit, prenons des gants en soie pour l'exhortation. Il ne sert à rien de vouloir exhorter et tout casser. Exhortons prudemment, sachant ce que nous disons en exhortant. Donnons-nous le temps d'écouter celui qui est exhorté aussi. Pour les jeunes gens, pas parce qu'ils sont jeunes, on va être brusque, on va être rude. Non. La Bible nous dit, ne reprends pas rudement. J'ai pris la version Darby. En fait. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père. Avant de terminer avec mes exemples dans l'exhortation, je vais prendre le 1 Corinthiens verset 16, le chapitre 16, verset 12. C'est une forme d'exhortation qui m'a un peu amusé. C'est Paul qui parle à Apollos. Quant à Apollos, je l'ai beaucoup encouragé. Dans d'autres versions, on trouvera exhorté. Quant à Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à venir aussi chez vous, avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il viendra quand il aura l'occasion. On l'exhorte. C'est un peu comme ce qu'on disait tout de suite, savoir le faire. On demande Paul, le grand Paul, le grand apôtre Paul, il demande à Apollos, va dans telle église parce qu'ils ont besoin de toi, va dans une autre parce qu'ils ont tel problème. Non, Apollos, il ne veut pas aller. À ce moment en tout cas, le moment où on lui demandait de le faire, il ne veut pas le faire. Et il y a une raison. L'apôtre Paul a tenu compte de ses raisons, de sa situation. Mais seulement, il est conscient, il a cette conviction. Quand Apollos aura le temps, il le fera. Que Dieu nous donne cette capacité de comprendre les situations, de comprendre les situations dans nos exhortations. On dit généralement, ou on pense généralement, que le chrétien n'a plus de liberté, de moyens d'action. C'est comme ça, on est reclus dans avec notre Jésus, on ne peut pas faire autre chose. Non, nous sommes les plus libres en fait. Nous sommes les plus libres, celui qui peut vraiment faire les choses quand il le veut, comme il le veut, mais en ayant devant lui le Seigneur Jésus. Nous allons prendre le dernier passage qui se trouve dans Éphésiens 4, le premier verset. J'exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. C'est pour ce dernier verset que nous prenons la dignité dans l'appel que nous avons reçu, la dignité de ce que Jésus est pour nous et l'exemple que nous devrons être, pas seulement ici, entre nous, mais aussi et surtout là où nous vivons au quotidien. Nous passons, 3 heures, 4 heures ici, 5 heures dans la semaine pour ceux qui viennent pour d'autres rencontres. C'est le maximum que je dis. Hein. Mais la plupart de nos temps, nous les passons chez nous, à la maison, dans nos quartiers, dans nos travails et avec d'autres personnes. C'est ces moments où on doit voir en nous une certaine dignité. Ah, lui, il est vraiment de Christ. Et ce moyen d'évangélisation fera que d'autres personnes seront sauvées. Seront sauvées pourquoi? Ce qui nous conduit à notre deuxième partie. Faites ceci d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher d'idées. Pourquoi venons-nous à l'église?
Pour le désir.
Pour former le corps du Christ, pour rendre Christ visible.
Et je me suis encore demandé, pourquoi croyons-nous en Christ? Je me suis posé ces deux questions et j'ai commencé par répondre comme ces réponses. Je vais voir les frères le dimanche. Quand je suis à ma place, quand je chante dimanche, et c'est une réparation que je le vis comme ça. C'est je surtout pour les chansons que je connais, quand je chante, ça n'a pas de prix, ça fait tellement du bien. Autant nous sommes ici, autant il y a des raisons. Je veux voir Gabi. Ah, j'ai pas vu Olaf. Je veux voir tel. Je veux être au café à la fin, discuter. Il y a toutes ces raisons qui sont de bonnes raisons. Et à la question, pourquoi je crois en Christ? Il y a aussi des réponses. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et je dis, oui, tout ça, c'est bien. Quand on entreprend une activité, ouvrage, entreprise, quoi que ce soit, on a notre objectif. Le point qu'on fixe avant toute chose. Venir à l'église, ça fait du bien, ça nous construit. Et après, le sportif, son objectif, c'est de faire partie d'une grande église et d'une grande équipe, ou Barcelone, ou Paris, en France maintenant. Ou soit pour certains, c'est de faire l'équipe nationale, la sélection nationale. C'est d'avoir la Coupe du Monde. Pour le politique, c'est, pour certains, c'est être député. Pour d'autres, c'est être ministre. Actuellement, pour quelques-uns, c'est être président de la République. C'est un objectif louable. Pour le chrétien, c'est quoi le but? C'est le jour. Ce jour-là. Ce jour qui viendra un jour. Oui, je suis chrétien. S'il n'y a pas d'objectif. Oui, je vis selon Christ. Et alors, qu'est-ce que je gagne? Ce que je gagne, c'est ce jour dont nous allons parler. Ce jour de l'avènement de Christ, si on est chrétien, et s'il n'y a pas ce jour, en fait, c'est là notre prix. Luc 17, le verset 30, nous parle de ce jour-là. Il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. S'il n'y a pas ce jour pour lequel il faut continuellement s'exhorter, ce jour pour lequel on doit s'encourager mutuellement. En effet, ce jour est comparé au jour où Sodome et Gomorre sont détruits. Nous, notre objectif en tant que chrétiens, c'est de vivre ce jour en symbiose avec le roi des rois, avec le seigneur des seigneurs, avec Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, en parle autant. Nous pourrons également lire 2 Pierre 3. Les versets 10, qui nous dit ce jour, personne ne le sait. Ce jour, les anges ne le savent pas. Le Fils ne le sait pas aussi. La seule personne qu'il sait, c'est le Père. Si éventuellement il y en a qui, comme on a vu de par le passé, hein, s'il y en a qui viennent vous dire c'est le tel, de telle année, de tel, ne les écoutez pas. Ce sont des menteurs, tout simplement. La Bible nous dit ni les anges qui sont dans les cieux. Personne ne le sait, même pas le Fils. Cette promesse est pour tous les chrétiens. Les temps sont déjà fixés. Et ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement un jour. Et ce jour-là, ceux qui auront cru et ne sont plus de ce monde, ceux qui sont déjà morts. Le Seigneur les prendra en premier. Ceux qui sont encore vivants comme nous, si c'est maintenant, ça peut être maintenant, pourquoi pas? Ça peut être dans très 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 longtemps encore. Si c'est maintenant, il nous prendra après. Et pour les autres veut dire ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Ça serait des grincements de dents. Ça serait très dur. La décision d'être avec le Seigneur Jésus à tout jamais se prend aujourd'hui, se prend quand on vit. Nous, dans nos églises, nous ne prions pas pour les défunts, mais nous enseignons que c'est quand on est vivant, quand on a encore l'occasion. Et cette occasion est donnée tout le temps, tout le temps, tout le temps. La parole de Dieu nous dit, même dans le coin le plus reculé, la parole atteindra ces coins avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Que le Seigneur nous bénisse.
Amen. Amen.